Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le titre que je vous annonce ce matin, c'est Joseph, le prince de ses frères. Et si je devais le rallonger un petit peu, je dirais c'est comment Joseph est devenu le prince de ses frères. Donc il s'agit de Joseph dans l'Ancien Testament. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois des héros de la foi. Les héros de la foi qui sont listés dans Hébreux chapitre 11. Voilà. Donc c'est bon que vous fassiez fonctionner votre cerveau et aussi que vous soyez réceptifs dans votre esprit puisqu'on l'a déclaré ensemble, on veut recevoir de Dieu. Il y a des révélations même sur des choses qu'on pense bien avoir acquises. Mais je voudrais simplement qu'on voit encore une fois la destinée extraordinaire de cet homme, sachant que la Bible nous dit clairement que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il ne déclare pas à l'avance, voilà, toi tu seras un champion dans le royaume de Dieu, toi tu seras moyen, toi tu seras un minus, ça n'existe pas. C'est nous qui déterminons la place que nous allons prendre dans le royaume de Dieu, sachant que Dieu récompense non pas la position, mais la fidélité. Une fois qu'on a compris ça, on peut se reposer dans le repos de la foi. On n'a pas besoin d'être tout le temps sur le devant de la scène, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas réellement un devant de la scène dans le royaume de Dieu. On est tous à notre place, là où Dieu voudrait qu'on soit. Alors, on va parler de Joseph, et en introduction, je voudrais dire que c'est un homme qui a reçu la vision de Dieu pour sa vie. Mais ce mot « recevoir » a un double sens. Reçu dans le sens que Dieu lui a montré une vision pour sa vie, ça c'est une chose, mais on peut après aussi avoir le sens de recevoir du côté du recevant. Il l'a accepté, parce que beaucoup de gens, ils ont des grandes idées sur ce qu'ils voudraient faire de Dieu. Dans le cadre du centre chrétien, de la formation biblique qu'on fait, de tous nos correspondants qu'on a dans une bonne partie du monde francophone, alors on a des fois des gens qui disent « nous aimerions être partenaires avec vous ». En réalité, ce qu'ils veulent souvent nous dire, c'est que nous aimerions une assistance matérielle de votre part. Et ils nous décrivent leur vision. Nous voulons avoir un ministère mondial, on veut faire des grandes choses encore et encore. Mais ce qui est important, c'est de recevoir la vision de Dieu pour notre vie. Pas d'avoir des idées de grandeur. On appelle ça en français une expression « la folie des grandeurs ». On veut être tellement grand qu'on en devient fou et au résultat, rien n'est accompli. Alors moi, je ne dis pas que je veux que vous rêviez petit, mais je préfère voir des petits accomplissements et des avancées au jour le jour plutôt que des rêves de grandeur qui n'aboutissent à rien. Mais pour Joseph, c'est différent parce que ce n'est pas lui qui avait une idée. Tiens, je serai quelqu'un plus tard. Il n'avait pas cette idée, c'est Dieu qui lui a révélé. Il a eu un songe et ce n'était pas une rêverie de sa part. C'est Dieu lui a révélé par un songe, voilà ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui t'attend. Est-ce que cette chose allait s'accomplir automatiquement? Eh bien, nous voyons dans la Bible que non, il faut toujours remplir un certain nombre de conditions. Mais une fois qu'on a la faveur de Dieu, on va voir ce qui peut se passer. Donc c'est un homme qui a reçu de la part de Dieu une vision pour sa vie. Et en même temps qu'il l'a reçu, il l'a aussi accepté. Le fait qu'il l'ait accepté nous est démontré dans le fait qu'il en parle autour de lui. Quand vous parlez de quelque chose que vous voulez faire, vous vous exposez. Parce qu'après les gens vous attendent. « Ah, tu voulais faire ceci, cela, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de ton projet maintenant ?» Vous voyez ? On peut... Sans que ça devienne dramatique, on peut simplement dire un peu se moquer ou dire voilà, tu voulais faire ceci, cela, maintenant on voit rien. Donc, ce qui est important aussi de réaliser, c'est que nous, on trouve que ces gens du peuple d'Israël, ce sont des gens choisis par Dieu, qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie, que Dieu a fait un certain nombre de choses au travers d'eux. Donc, on peut dire que nous avons une bonne image et opinion du peuple d'Israël. Enfin, c'est ce qui me semble. D'accord ? Tant que chrétien, on voit le salut est venu des Juifs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le peuple de Dieu, quelque chose s'est passé. Mais quelle était la vision de l'époque sur ces gens des Hébreux ? Qu'est-ce que c'était ? Une petite tribu, un clan de bergers. Il nous est même dit, et là j'arrive tout de suite à certains aspects de ce qu'on va lire tout à l'heure dans les passages qui parlent de Joseph. Il nous est dit, dans Genèse 46, quand vous allez vers Pharaon, vous allez, et qui vous demandera quelle est votre occupation, vous leur direz, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Réfléchissez à cette phrase, en abomination aux Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils avaient aussi des troupeaux. Mais ça veut dire que les gens qui s'en occupaient, ils étaient méprisés. Vous voyez ? C'est ça qui est important pour nous de réaliser. Le fait d'être un berger de ce temps-là en Égypte n'était pas quelque chose de glorieux. « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Moi, je suis berger. »« Waouh, super ! T'es berger ?» Non, il disait, « Oui, bon, c'est juste bon à garder les troupeaux, c'est ceux dont on ne veut pas. Peut-être ça sent un peu l'étable ou des choses comme ça. » Donc, les Égyptiens, dans leur haut standard, les maîtres du monde de l'époque, ils se disaient, « Nous, on est trop bons pour être bergers. » Mais Dieu avait un dessein par Joseph. Mais on peut voir aussi que Joseph, de cette condition naturelle de berger, il s'est élevé dans une position qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Qui aurait pu imaginer qu'il deviendrait un jour le numéro 2 de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon, s'occupant de toutes les affaires du royaume. D'accord ? Donc, même dans le monde, ça ferait rêver. Mais ici, il y a plus que simplement la réalisation d'un rêve de grandeur. Il y a un homme qui a reçu la vision de Dieu et un homme qui s'est élevé au-dessus de sa condition naturelle. Et chacun d'entre nous, nous pouvons choisir sur ces deux points. Recevoir la vision de Dieu, on peut écouter des messages et des messages, on peut aller chez des prophètes, on peut regarder des vidéos, on peut regarder des trucs à internet, on peut se faire une idée de ce que sera ma vie et mon ministère. À un moment donné, il faudra avancer avec. Et ensuite, on peut aussi être à l'inverse, complètement déprimé. Vous savez, même Gédéon, ça c'est pas mon thème aujourd'hui, mais quand l'ange de l'Éternel est venu, il a dit « Moi, je suis le plus petit de la maison de mon père, etc. » Il avait une image très négative de lui-même, tout diminué. Mais on voit que Joseph, il avait un aspect extraordinaire. Il était en accord avec la vision de Dieu pour dire « Je vais m'élever au-dessus de ma condition naturelle. » Donc, premièrement dans la vie, pour l'accomplissement de la vision, il y a toujours un moment de l'appel. Comment se produit cet appel ? C'est le moment de l'appel. Tout au long de notre vie chrétienne, vous devrez être très au clair sur ces trois choses. Il y a l'appel, la formation et l'envoi. Pour chaque mission de Dieu, c'est pas seulement « je suis appelé petit ». Je me forme en tant que jeune homme et le reste c'est la formation. Non, chaque fois qu'il y a, vous voyez, une nouvelle mission de Dieu, il y a quelque chose que Dieu vous dit. Tu vas faire ceci. Ensuite, il vous donne les moyens de vous former pour. Peut-être ça fait 10 ans qu'il y travaille à vous former pour cet appel. Et à un moment, il dit, ça y est, maintenant tu y vas. Donc, entre ces trois choses va toujours s'écouler plus ou moins de temps, mais vous allez toujours pouvoir reconnaître ces trois étapes. Donc, l'appel. Pour que Joseph soit appelé, il fallait quoi ? Il fallait qu'il soit dans un certain nombre de conditions réunies. Quelle était la première condition pour être appelé pour chacun d'entre nous ? Elle est très simple. Il faut juste qu'on soit aimé de Dieu. Il nous regarde, il voit quelque chose en nous dont il voudrait se servir. Et cette chose d'être aimé de son père est tellement importante dans notre vie qu'il y a des gens qui sont perturbés pendant toute leur vie parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de leur père. Mais un miracle peut se produire à la nouvelle naissance où on reconnaît réellement que nous avons été adoptés par Dieu. On vient à Christ pour aller au Père. N'oubliez pas. Nous mettons Christ au centre, Jésus est le Sauveur, et on fait tout pour venir à lui qui est notre Sauveur, et lui veut nous amener au Père, n'oublions pas ça. Il veut nous amener au Père. Alors qu'est-ce qu'on a de le début de la vie de Joseph? Au chapitre 37, il nous est dit, « Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. » C'était en quelque sorte le petit dernier aussi. Et à l'époque, c'était pas sans importance, parce que c'était très très hiérarchisé dans une famille. Et il nous est dit quelle était son attitude. Il rapportait à leur père certaines choses que ses fils faisaient qui n'étaient pas bien. Mais il nous est dit au verset 3 quelque chose de très important. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Alors nous, on dit maintenant, avec notre regard moralisateur, ça ce n'est pas bien, un père de famille qui fait une différence entre ses enfants. Mais l'important, c'est pas maintenant cette attitude d'Israël, l'important c'est que il aimait Joseph, et Joseph le savait. Il se savait aimé. Et son père lui a montré un signe de son amour. Il nous a dit, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Toutes ces versets bibliques ne sont pas juste pour remplir les pages de la Bible. Tout est important. Il a fait une tunique de plusieurs couleurs. C'est pas rien. C'était pas très coloré à l'époque, hein, dans certaines familles de gardiens de troupeaux. Mais ces choses nous parlent du Père qui a donné un signe, une preuve de son amour. Il voulait le mettre en honneur. Rappelez-vous que Joseph étant un type de Christ, on parle aussi de la tunique de Jésus, qui était spéciale au point qu'au moment de la crucifixion, ils ont certaines étoffes et les ont partagées, mais ils ont dit la tunique, elle est spéciale. Jetons le sort pour voir qui elle sera. Ce sont des choses que Dieu a mis dans sa parole pour nous parler. Donc il y a un appel spécifique, il y a l'amour de son Père, et donc, ces choses étant en place, il reçoit les rêves de Dieu, les visions de Dieu, et il a cette simplicité de les dire, il les raconte. Il ne fait pas des calculs. Ça montre quelque chose au niveau de son esprit, qu'il y a une simplicité dans l'état de son cœur. Il dit simplement les choses comme elles sont. Et nous, dans nos relations humaines, nous sommes devenus très très compliqués. Parce qu'on se dit, il me dit ça, mais par derrière, il a certainement une arrière-pensée. Et si je dis ceci, alors il va peut-être croire cela. Et ça te fait des enchaînements extraordinairement compliqués où tout le monde est très très sensible, hypersensible. Et Joseph nous montre là qu'il y avait une candeur, une simplicité. Il vivait une relation simple. Il s'occupait des troupeaux, savait que son père l'aimait. Il avait une marque de l'affection de son père. Il reçoit un rêve de Dieu, il le raconte. Il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de calcul. Et en même temps, il y avait peut-être de l'enthousiasme. Des fois, on dit il ne faut pas trop d'enthousiasme. Je ne sais pas si on peut avoir trop d'enthousiasme, puisque l'enthousiasme, ça veut dire être en Dieu. Donc, mais il y avait l'enthousiasme de dire, waouh, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. J'ai eu un songe de Dieu, et Dieu va faire quelque chose dans ma vie au point qu'il va m'élever au-dessus de mes frères. Et la deuxième, qui était encore plus choquant, c'était non seulement ses frères, mais aussi ses parents vont se prosterner devant lui. Alors là, ça semblait vraiment choquant, blasphématoire, etc., ne respectant rien du tout des traditions de l'époque. Hein, parce que la notion paternelle, patriarche, tout ça, on n'y touchait pas. C'était sacré. Mais il était de cette simplicité qui fait que c'était un homme selon le cœur de Dieu, dont il pouvait faire quelque chose. Et vous savez que c'est difficile. Si on reçoit l'appel, beaucoup veulent y aller tout de suite. On ne va pas maintenant s'égarer dans les choses d'autres personnages bibliques, mais juste pour citer Moïse, il a cru qu'en tant que, ayant été élevé dans la cour de Pharaon, il était fortement équipé pour aller libérer le peuple. Et Dieu lui a fait passer par un autre chemin pour qu'il comprenne que ce n'est pas de cette façon que Dieu agit. Donc de la même façon, il y a toujours dans notre vie un dépouillement. un moment où on perd nos moyens naturels. Parce que Dieu dit, ce n'est ni par puissance ni par force. Dieu ne va pas faire de vous son instrument parce que vous êtes fort, beau, intelligent, diplômé, riche ou je ne sais quoi. En tout cas, pour Joseph, c'était radical. Il a été trahi, il a été vendu. Encore un aspect du type de Christ, il a été trahi par ses propres frères. Jésus a été trahi par un de ses plus proches. Judas faisait partie de ses disciples. Nous, on a maintenant une image négative de Judas. Mais lorsque Judas était dans le groupe des disciples, Jésus ne pensait pas tous les jours. Ah, c'est celui-là, c'est celui qui va me trahir un jour. Vous voyez, il avait une vraie relation avec lui. C'était un de ses proches. D'ailleurs, l'évangéliste Jean, il dit, Judas, celui qui a mangé avec lui. Dans le sens de ce repas de la communion, de l'intimité. Donc, une trahison par quelqu'un qui est très proche. Il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave et maintenant il n'a plus rien du tout. Un esclave n'avait plus rien du tout. Souvent on voyait d'ailleurs des esclaves qui étaient enchaînés et sans vêtements. Vous savez, vraiment rien du tout. Et il n'avait aucun avenir, aucun espoir de libération ou de pouvoir faire quoi que ce soit de leur vie. Et dans le droit romain par exemple, l'esclave n'était plus une personne. C'était comme un animal, comme du bétail. On parle dans le droit de sujet de droit ou d'objet de droit. Ben là, c'était devenu un objet de droit qui a perduré pendant des siècles. On pensait même dans l'Europe soi-disant chrétienne du Moyen-Âge, il y avait des serfs qui étaient considérés comme des objets et pas des personnes dont on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais Dieu a toujours été contre l'esclavage. Et il est au contraire celui qui nous montre qu'il est venu pour libérer. Donc, Joseph était dans cette parfaite position maintenant de dénuement, ne dépendant plus que de Dieu seul. Et maintenant, on voit tout ce côté de la formation. Tout ce qui a été semé en lui, dans ses premières années de bonheur, on peut dire, auprès de son père, jusqu'à l'âge de 17 ans, est maintenant éprouvé. Parce qu'il y a un temps pour écouter des choses bibliques, des messages, et lire et écouter encore et regarder. À un moment vient la mise en pratique. Et là, on voit ce qui est en vous. Comme un de mes amis a dit un jour, c'est quand vous prenez une éponge et que vous appuyez, il en sort ce qui était dedans. De vous, pour vous aussi, quand vous avez un moment de pression dans votre vie, on voit ce qui est en vous. Si dans les moments de pression, vous réagissez comme tout le monde, alors ça veut dire que vous n'avez pas cette force de Dieu qui est en vous. Or vous, quand je vous parle, j'espère que vous l'avez. Vous avez Dieu en vous. Nous ne sommes pas non plus perturbés psychologiquement au point de désirer la souffrance, le malheur ou des choses difficiles dans notre vie. Joseph n'a pas désiré cette façon pour devenir ce qu'il est devenu par la suite. Et de la même façon, nous ne sommes pas là à rechercher constamment. Oh, j'ai des souffrances, oh, c'est pour mon bien, ça va me faire du bien, et encore plus, Seigneur, pour me bénir et me former. Non, 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 nous ne sommes pas dans ces choses. Parce que la plupart du temps, et moi je mets en garde, c'est les gens qui commencent à glorifier la souffrance et leur souffrance personnelle, ils ouvrent en fait la porte tout grand au diable. Pour qu'il leur en mette encore plus. Si nous sommes obligés pour obéir à Dieu de passer par une souffrance, nous ne la recherchons pas, nous ne la désirons pas, pas plus que Jésus ne se réjouissait d'aller à la croix. Et il a même lutté, il nous a dit, dans l'agonie, il a prié jusqu'à ce que des grumeaux de sang sortent de son front, tellement il a lutté pour éviter ce moment. Mais c'était impossible. Gloire à Dieu, c'était impossible pour nous. Pour nous sauver, il a fait cela. J'ai même entendu à la radio une chronique médicale où il parlait de ce temps de Jésus. Et il disait, oui, c'est possible que sous l'effet d'un grand stress, il y ait de la transpiration qui soit mélangée à des gouttes de sang. Et donc ils analysaient l'agonie de Jésus à notre radio nationale, dans une chronique médicale, pour prouver la Bible. Alléluia. Mais il n'a pas cherché ça, pas plus que Joseph n'a aimé ce passage. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que, alors qu'il n'avait plus rien du tout, Dieu était avec lui. Des fois on dit avec légèreté comme ça, « Oh, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Et on déclare ça, et tant que tout va bien, on dit « On a tout pleinement en Jésus-Christ. » Et quand ça va pas, tout à coup, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Non, nous avons toujours tout pleinement en lui. Et Joseph l'a réellement expérimenté. Donc il a été vendu, mais même dans cette chose difficile, on ne dit pas qu'il était dans une prison dorée, mais malgré tout, Dieu a conduit les choses de façon à ce qu'il soit vendu à un officier de Pharaon, un chef des gardes. Et donc, malgré cette adversité, Dieu était avec lui. Et c'est dans Genèse 39, il nous est dit au verset 2, « L'Éternel fut avec lui, et quelqu'un d'autre encore, on pourrait dire, est allé avec lui. » La prospérité l'accompagnait. La prospérité l'a accompagné. C'est quoi ça, la prospérité? Elle se définit comment? C'était pas une caravane de chameaux avec de l'or qui le suivait. La prospérité l'accompagnait, ça veut dire qu'il y avait quelque chose en lui, de la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. L'a accompagné dans l'esclavage, mais immédiatement, dans l'adversité, ça s'est manifesté. La grâce de Dieu s'est manifestée. Au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. La grâce de Dieu. Il y a des années de ça, j'avais découpé un petit papier que j'avais trouvé sur un bulletin chrétien. Il était dit, une minute de sa faveur vaut mieux que 10 ans de notre labeur. Je trouvais que ça rimait bien, mais c'est surtout pour focaliser la grâce de Dieu. Ne la méprisons pas. La faveur de Dieu peut changer complètement notre vie. Déjà, elle nous change en nous sauvant. Alors, il a trouvé grâce aux yeux de son maître. Verset 5, « L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. » Tout ce qui lui appartenait. Vous êtes, et on le dit souvent, nous voulons être, nous sommes une source de bénédiction. Là où nous allons, les choses se transforment. Nous sommes une influence positive pour ceux qui sont autour de nous. Dieu était avec lui, et après vous savez qu'il y a eu de nouveau une épreuve. Dans la formation que nous avons, il y a certaines choses où ça avance bien, on se dit alléluia, ça marche, des victoires, et puis des fois, « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai obéi à Dieu. » Et maintenant, une chose désagréable arrive, ou quelque chose qui semble vouloir se mettre en travers. C'est simplement parce que, puisque nous avons réussi le premier test, on passe à une étape plus élevée. Et donc, il y a de nouveau un test. Hein, c'est comme si vous prenez maintenant un cursus scolaire. On pourrait dire, si on a notre certificat à l'époque qu'on avait de fin d'études primaires, on pourrait dire, c'est super, j'ai mon examen, je m'arrête là. On dit, mais non, on veut aller plus loin, donc on fait des études plus loin. Ensuite, encore plus, on peut avoir le brevet, puis le bac, ou d'autres choses. Et ça, on le comprend facilement dans le naturel. Donc là, il y a, premièrement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde que vous prospériez, hein. Il faut quand même voir qu'il y a de l'opposition. Et deuxièmement, au travers de cette opposition, vous êtes de nouveau testé peut-être dans une des choses qui vous est propre. Là, en l'occurrence, comme Dieu avait de grands projets pour vous, vous savez qu'il faut toujours subir le test de la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Si vous voulez devenir prince d'Égypte, alors, il faut aussi montrer de la fidélité dans un certain nombre de choses. Et donc, cette chose en particulier, c'était la seule chose, entre guillemets, c'était une femme, en l'occurrence la femme de Potiphar, c'était, il nous est dit, parce que c'est lui qui l'a dit comme ça, il parle à la femme de Potiphar, et Joseph dit, « Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, et mon maître ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Donc il a cette notion, pas seulement « je fais quelque chose dans le naturel » ou « quelque chose qui déplaît Potiphar », mais il a toujours « je vis sous le regard de Dieu ». Et pensez aussi que c'était le test que n'ont pas réussi nos ancêtres Adam et Ève, parce qu'ils avaient tous les arbres du jardin sauf un, et c'est celui qu'ils voulaient. En général, c'est comme ça dans la vie des hommes, hein, dans le naturel. On peut avoir plein de choses et puis il y a une chose qu'on n'a pas. Et on pense qu'on ne peut plus vivre si on n'a pas cette unique chose. Mais Joseph, il était bien disposé. Il savait quoi faire. Il pratiquait littéralement ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. À un moment, il est dit, vous devez vous sanctifier et fuyez l'impudicité, fuyez l'impureté. Donc, à un moment donné, quand cette femme a voulu vraiment une fois de plus insister pour qu'il couche avec elle, il nous est dit, elle parlait avec lui tous les jours, elle insistait, et finalement, elle lui a saisi le vêtement, et lui, il est parti en lui laissant le vêtement. Il a fui. Après, il y a eu une calomnie sur lui, et au lieu d'être récompensé pour tous ses bons services et toute son intégrité, il a été jeté en prison. Et nous avons ça d'une façon très sommaire. Il prit Joseph et le mit en prison. Je n'ai pas l'impression que ça a été cinq minutes très agréables où la Bible laisse certains silences. Mais la réalité de la circonstance, c'est qu'il devait y avoir une certaine violence. Mais le plus important, c'est que, verset 21, « À nouveau, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers, etc. Et il nous est dit, un peu plus loin, que rien ne se faisait sans lui, il y avait de nouveau cette situation, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. À nouveau, malgré l'adversité, on pourrait dire qu'il est tombé encore plus bas. Avant, il était esclave, maintenant il est encore esclave en prison. Encore descendu plus. Et c'est comme quelqu'un a dit, quand on veut construire très haut, on creuse un trou très profond pour faire des fondations très profondes. Alors, des fois, il faut vraiment que les fondations soient en béton armé pour pouvoir monter. Donc voilà certaines choses que nous voyons. Et dans la bénédiction de son père, des fois, on n'a pas tout de façon chronologique dans la Bible. Donc dans la bénédiction de son père, à la fin de Genèse, quand Israël, ou Jacob si vous préférez, bénit ses frères l'un après l'autre, d'ailleurs certaines bénédictions ne sont pas tellement des bénédictions, hein, parce que de certains il dit des choses vraiment qui leur rappellent des mauvais comportements, etc. Mais il nous est dit, voilà ce que Jacob, son père, prophétise et parle sur Joseph. Il dit au verset 22, Genèse 49, 22, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. » Nulle part dans l'histoire de Joseph, on nous parle de guerre qu'il aurait commis, qu'il aurait faite, qu'il aurait dirigée, qu'il y avait des batailles, etc. Mais, comme j'en suis sûr, quand il a commencé à s'élever, il y a dû y avoir pas mal aussi de discussions au niveau de la cour de Pharaon, mais qui disait celui-là, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ce soit un étranger, un hébreu qui domine sur nous, et des gens qui voulaient le descendre littéralement. Donc que ça a été une bataille ou non, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Ça me fait penser au trait enflammé du malin qui cherche à nous atteindre. Il nous est dit, mais ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Littéralement, nous on dirait par l'action du Saint-Esprit, parce que la main de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. Et il nous est dit, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est ainsi. Ainsi, ça veut dire, c'est de cette façon qu'il est devenu le berger. Si vous voulez vous occuper d'autres, il faut que vous passiez vos propres tests et que vous ayez expérimenté l'adversité et vu la main de Dieu sur vous. Et ainsi, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Maintenant, il est de nouveau un berger. Avant, il était un berger, dans le naturel méprisé. Maintenant, il est de nouveau un berger, cette fois-ci un berger spirituel. Et combien de personnes avons-nous autour de nous qui sont, comme le dit Jésus, qui étaient émus de compassion pour toutes ces foules qui n'ont pas de berger. Ils n'ont personne pour leur montrer le chemin, personne pour les guider dans la voie. Et il nous est dit qu'il était ému de compassion pour ces foules languissantes qui ne savent pas leur chemin, qui ne savent pas comment aller. Et il est dit, tu es devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Bénédiction des cieux d'en haut, bénédiction des eaux en bas. Bénédiction des mamelles du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Vous rappelez Abraham, la bénédiction d'Abraham, il parle de ses pères. Il y a encore plus. Pourquoi ? Parce que par la suite, nous voyons qu'il est dit, eh bien, de toi est sorti Judas, et dans la lignée de Judas, ça va jusqu'à la lignée qui a conduit à la naissance de Jésus le Christ. Donc il a reçu la bénédiction de son Père et il nous a dit, au travers de ses traits enflammés, comment pouvons-nous y résister ? Par le bouclier de la foi. La foi de Joseph a été éprouvée. Et quand je vous dis que tout n'est pas chronologique dans la Bible, mais qu'il y a beaucoup de passages qui nous éclairent sur ce que nous avons besoin de savoir, dans le psaume 105, il y a un résumé de certaines choses qui s'est passées pour le peuple d'Israël. Et au verset 17, il nous est dit, voilà ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé devant eux, devant le peuple d'Israël, un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Comment est-ce que la parole de l'Éternel l'a éprouvé ? Vous savez, souvent on parle des épreuves et on se pose des questions, est-ce que les épreuves nous fortifient ou pas ? En fait, ce qui nous fortifie surtout, c'est quand on est éprouvé par la parole de Dieu. Mais le diable aussi veut des fois utiliser les paroles que nous avons reçues. Joseph, tu croyais que tu serais le prince ? Tu croyais que les autres allaient se prosterner devant toi ? Et maintenant, qu'est-ce que tu dis ? Maintenant, tu es en prison en Égypte. D'accord ? Et en prison en Égypte, vous vous rappelez, il s'est passé une chose extraordinaire. Il y a le panetier, les chansons qui ont eu des songes. Joseph, il a expliqué les songes. Il dit, ça y est, c'est la méthode de Dieu, il va me sortir de là. Il est resté encore plusieurs années après ça. Donc pendant toutes ces ans, il a été éprouvé par la parole de Dieu. La parole qui dit, ses promesses vont s'accomplir. Mais pendant ce temps, on peut dire, nous sommes dans notre prison, quelle qu'elle soit. On est dans une prison d'impossibilité, de choses qui ne vont pas comme on voudrait, de choses qui avancent pas assez vite, et on se pose des questions. Et la chose importante à ce moment-là, c'est pas dire, oh, je croyais que quelque chose allait se passer, et puis finalement, il n'en est rien, ça n'a jamais arrivé. C'est à ce moment-là qu'il faut tenir bon tir. Si, un jour, je sortirai de cet endroit, Dieu est avec moi, et je pourrai atteindre mon objectif et je verrai la réalisation du rêve que Dieu m'a donné. Comme l'apôtre Paul disait aussi, je n'ai pas résisté à la vision céleste. C'est dans Acte 26. Ne résistez pas à la vision céleste, ça c'est une chose, mais ensuite courez avec cette vision, dites oui, je veux l'accomplir, je veux le voir se réaliser. Et maintenant, le troisième et dernier point, on est dans l'accomplissement. Donc ça peut être l'envoi. Vous pouvez aller quelque part, faire une mission ou voir des accomplissements de choses que Dieu vous a promises. Et quand vous êtes alors dans l'accomplissement, c'est sûr que c'est le moment le plus important et le plus beau maintenant pour nous, mais dans l'accomplissement, qu'est-ce qui se passe ? L'accomplissement, c'est quand il a été amené devant Pharaon, qu'il a pu donner l'explication des rêves de Pharaon. Mais juste avant qu'il donne cette explication, il y avait encore un test. Au chapitre 41, Finalement, on s'est rappelé de lui en prison. Au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Des détails de la parole de Dieu. Il se rasa, changea de vêtements. Donc la prison n'était pas forcément dorée, hein, quand même. Hein. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » C'est ça le test. Tu expliques un songe. J'ai appris que tu avais un ministère extraordinaire, que tu pouvais guérir les malades, que tu pouvais faire ceci, cela. Et c'est là le test. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Daniel, le prophète Daniel, fait la même réponse au roi. Quand il dit, « Il y a en toi l'esprit de sagesse, etc. J'ai appris que... » Il dit, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Très important ça, de le réaliser. Et c'est pour ça que Dieu est avec lui. À partir du moment où on commence à dérober la gloire de Dieu, dire « C'est moi, c'est moi, c'est moi », Dieu se retire de la scène et dit, puisque c'est toi, vas-y, fais-le. Puisque c'est toi qui le fais. Et que si on dit, ce n'est pas moi, c'est que la grâce de Dieu au travers de moi. L'apôtre Paul aussi, il avait travaillé. Il disait, j'ai travaillé plus que tout le monde. Et il se reprend tout de suite dans sa lettre et dit, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui travaille au travers de moi. Donc c'est bien de travailler beaucoup pour Dieu, mais de se rappeler que c'est au travers de nous que sa grâce se manifeste. Donc ne pensez pas, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un de spécial, etc. Il ne s'agit pas non plus de dire tout le temps je suis minable, je suis nul, et bien c'est seulement parce que Dieu est avec moi que je peux faire quelque chose. Il faut être un peu au milieu, reconnaître que Dieu vous a donné des capacités, mais que sans lui, vous ne pouvez pas. Donc, il est devenu le berger de ses frères. Comme il est maintenant le berger de ses frères, ben qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait un travail pastoral. Il voudrait vraiment que ses frères puissent pas seulement être sauvés de la famine, mais être sauvés d'eux-mêmes, de leur jalousie, de leur haine, de leur méchanceté, de leurs choses compliquées, qu'ils complotaient les uns contre les autres. Alors il invente, avec l'idée de Dieu, un stratagème pour amener leurs frères à la repentance. Et nous sommes parlé un peu compliqué cette histoire-là. Il voulait qu'ils suffisamment avoir leur attention pour qu'ils réalisent dans quel état ils sont. Et quand il leur a fait toute cette mise en scène de « vous êtes des espions », j'en garde un comme otage, vous retournez chez votre père, si vous ne me ramenez pas le jeune frère, je ne vous croirai pas. Ensuite, ils reviennent, puis ils cachent l'argent dans les sacs. Et toute cette histoire peut nous paraître un peu étrange, mais ils cherchaient absolument à réveiller quelque chose chez eux. Réveiller ce qui était enfoui au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque chose n'était pas droit dans leur cœur. Et à un moment donné, gloire à Dieu, leur cœur a été touché. Et ils ont réalisé. Et un des frères dit, Dieu nous rappelle notre faute aujourd'hui. Nous ne devons pas vivre avec la conscience du péché sans cesse. Oh, je suis coupable, 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 et on ne bouge jamais. Mais d'un autre côté, la Bible dit aussi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Donc il y a un moment pour reconnaître ce qui est faux et en nous, et de l'exposer. Dans le prophète Jérémie, il nous est dit de certains prophètes ou sacrificateurs, « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Ça veut dire que Dieu dit que certaines plaies, blessures, ne sont pas soignées correctement. Nous savons que si on met juste un bandage sur une plaie, ben, si c'est infecté à l'intérieur, ça risque par la suite de produire des complications. Donc il faut s'assurer que ça soit bien pansé. Pansé, nettoyé, désinfecté, alors on sait que la guérison, elle sera possible. Et donc là aussi, si Joseph avait tout de suite couru, « Ah mes frères, vous êtes là, c'est merveilleux, on est enfin réunis nouveau en famille. » Et rien ne se serait produit. ils auraient continué leur vie avec ce poids d'une chose non résolue. Mais à un moment donné, leur cœur a été touché et ils se sont rappelés. Et l'un, l'autre, ils se parlaient et ils ne savaient pas que Joseph les comprenait parce qu'il leur parlait en égyptien et avec un traducteur. Mais lui, il entendait tout ce qu'il disait. Et l'un disait à l'autre, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû le vendre, etc. Il nous suppliait de ne pas le faire et on se rappelle de notre... Donc, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit et il a pu faire cette chose de devenir le berger de ses frères. Et lui qui était le petit dernier, hein, à un moment donné. Bon, après, il y a eu Benjamin encore, mais par rapport à la plupart de ses frères, il était le petit dernier. À un moment, quand leur père est mort, il leur parle comme ayant pris cette place du père. Il dit, je vais prendre soin de vous. N'ayez pas peur. Et c'est lui qui les console et qui les rassure. Parce qu'ils ne sont pas encore sûrs de ce que Joseph a comme intention. Donc, après la mort du père, ils essayent encore par un mensonge. Ton père, avant de mourir, il a dit surtout, voilà. Et voilà, ils ont peur de lui. La Bible nous dit, l'amour bannit la crainte. À un moment donné, il faut qu'on arrive dans les relations à ne pas vivre dans la peur. Mais s'il y a des choses non réglées, on vivra toujours avec cette chose qui ne sera pas nettoyée. Et ensuite, le dernier point que je voulais souligner dans le ministère de Joseph, c'est qu'à un moment donné, Dieu l'a conduit donc à être le protecteur de l'Égypte tout entière, de tout sauver toutes ces personnes qui étaient menacées par la famine. Mais en fait, c'est lui qui a mis en place en Égypte un système qui a fait que tout le pays appartenait à Pharaon. Vous vous rappelez de ça ? D'abord, avec l'argent, ils ont acheté la nourriture. Ensuite, quand ils avaient plus d'argent, ils ont vendu tous leurs troupeaux à Pharaon contre de la nourriture. Ensuite, quand ils n'avaient plus de nourriture, ni de troupeaux, ni d'argent, ils sont venus en disant, ben, on donne les terres et on se vend nous-mêmes. Et donc, finalement, tout a été transféré sous l'autorité de Pharaon. Alors, pour nous, ça nous semble un peu, peut-être étrange. On dit, mais Joseph, voyons, il ne fallait pas aller jusque-là pour que ces gens deviennent esclaves de Pharaon. Mais, rappelez-vous, lui aussi, c'est un type de Christ, et même si tout nous apparaît pas toujours très clair, nous avons été rachetés totalement par le sang de Jésus. La Bible nous dit, pour que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes. Ça ne plaît pas à beaucoup de gens. On veut ça. Mais c'est la réalité. Et la réalité, c'est que nous avons tout intérêt à ne pas nous appartenir à nous-mêmes, mais à lui. Parce que quand on lui appartient, c'est lui qui prend soin de nous. Et alors, on y gagne. On est gagnant. Ces gens, s'ils ne s'étaient pas vendus littéralement à Joseph, type de Christ, ils seraient morts. Il leur a donc assuré la prospérité et la survie. Et on peut penser aussi que chacun de nous, nous avons été rachetés pour notre survie, pour lui appartenir. Et ma conclusion est dans Romains 8. Parce que là, on va voir dans un instant aussi cette conclusion qui était la même que celle que Joseph a eue sur toute sa vie et son histoire. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Semblable à l'image de son fils. Vous vous rappelez, j'ai dit que Joseph était un type de Christ, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc, ce Joseph, il avait cette pensée sur sa vie. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est les deux choses vont ensemble. D'accord? Jean 14, 21 nous dit, si quelqu'un garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui aime Dieu, il va suivre Dieu, il va vouloir le suivre. alors seulement des choses vont concourir à son bien. Parce que des fois, les gens veulent le dire automatiquement. Toute chose concourt, peu importe ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, dans la mesure où j'aime Dieu et je veux poursuivre le dessein qu'il m'a tracé. C'est comme ça que Joseph voyait aussi. Il n'a pas dit, c'est formidable que je sois esclave, que je sois en prison, que j'ai été maltraité, etc. Non, mais il a fait une conclusion de sa vie où il dit à ses frères la chose suivante, dans Genèse 50, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Voilà comment il avait résumé. Il avait oublié ce que nous sommes appelés à faire, les choses anciennes, et fixé le regard sur l'objectif que Dieu avait, sauver le peuple. Et cette philosophie de vie est très importante. Pourtant, suis-je à la place de Dieu ? Suis-je à la place ? Trop souvent, les gens se mettent à la place de Dieu, nous n'avons pas à prendre sa place. Donc pour nous aussi, une pensée finale, c'est beaucoup de choses peuvent se passer. Des fois, on n'aurait pas eu envie de traverser certaines choses, mais l'important pour nous maintenant, c'est de voir l'accomplissement, le dessein de Dieu. Il y a des bonnes choses à attendre. On s'est mis dans cette position, c'est qu'on est appelé, on a été formé, formation continue, et on est déjà dans l'accomplissement. On voit un certain nombre de choses, mais on n'a pas encore tout vu, bien sûr. Donc que Dieu vous bénisse alors que vous allez continuer et persévérer dans cette voie, et il va certainement aussi vous permettre d'expérimenter la vision de Dieu pour votre vie et de pouvoir expérimenter des choses que certains ne rêvent même pas. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.